Chapitre 2. Comment Pierre s'amusa à Bellegarde. Le monsieur obligeant parla d'un ton embarrassé. « Cher soldat, à mon grand regret, il faut que je vous quitte. Je rentre chez moi, à 10 kilomètres d'ici, je n'ai que le temps de courir prendre mon petit train. Le chef de gare s'occupera de vous certainement. Adieu et bonne chance. » « Bonne chance », se répétait Pierre avec quelque ironie. « J'aurai besoin d'une bonne chance, assurément, car la garde que je vais monter à Bellegarde risque fort de n'être pas une belle garde. Je ne connais personne ici, et ce bureau m'a tout l'air d'être vide. » En effet, le chef de gare venait de sortir en courant, les bras en l'air, comme font les chefs de gare en France dans les moments critiques. « Monsieur le chef de gare, prononça Pierre, ou un employé, n'y a-t-il personne ici ?» Silence complet, au dehors des sifflets, des pas précipités, même des vociférations. Frontière bouclée, une affaire à Genève, ma fille malade, je vais télégraphier, pas un lit dans toute la ville à ce qu'on dit. 800 personnes campent dans la gare, on n'a pas idée d'une impéritie, désordre, faut pas s'en faire. Facile à dire. Guidé par ce torrent de voix qui s'écoulait devant la porte ouverte et tâtonnant avec sa canne pour ne pas se heurter au meuble, Pierre atteignit le seuil, y resta immobile, écoutant les protestations exaspérées de ses compagnons d'infortune, dont aucun cependant ne pouvait être aussi embarrassé que lui. Tout à coup, il fut violemment bousculé par quelqu'un qui fonçait sur sa personne et l'écartait du seuil. « Qu'est-ce que vous foutez là, dans le bureau du chef ? Sur le quai et plus vite que ça ! Ma parole, si les voyageurs se mettent à camper dans les bureaux, il y en a 300 de ces sauvages qui font du feu pour le jus dans les voies de garage. Ils se croient dans les tranchées, qu'on dirait, ces animaux-là !» Il s'interrompit et Pierre en profita pour dire « Je ne demanderai pas mieux que de m'en aller d'ici, mais je vous ferai remarquer que je suis aveugle, aveugle de guerre. » Il prenait un ton sec et froid pour dire cette chose qu'il n'aimait pas dire. Aveugle, aveugle de guerre, répéta son interlocuteur. Toutes mes excuses, monsieur, mes compliments, je veux dire mes condoléances. Vos compliments, fit Pierre qui ne put s'empêcher de rire, s'adressent sans doute à l'ocularisme qui m'a fait de si beaux yeux artificiels. « Je ne vous demande pas de condoléances, mais seulement un petit service. »« Voici le chef de gare qui réplique. Il vous renseignera, » fit l'autre en s'éclipsant avec agilité. Et, de nouveau, Pierre fut obligé d'expliquer au fonctionnaire qu'il était aveugle, qu'il voyageait seul, qu'il avait compté arriver à Genève dans la matinée. Et maintenant, si la fermeture devait durer quelques jours, il serait bien forcé de se trouver un logis. Le chef de gare souleva sa casquette pour donner un peu d'air à son crâne, sous lequel bouillonnaient des pensées irritées et confuses. « Vous ne trouverez rien. Nos hôtels sont pris d'assaut, pleins à craquer. Bellegarde n'est pas une capitale. Cette gare n'est plus une gare. C'est une foire sans pain d'épices. La salle d'attente est un wigwam de peau rouge. Nous sommes débordés, débordés, débordés. Cette occlusion de la frontière... « Occlusion est plus beau que fermeture, nous cause un embouteillage indescriptible. Et comment on se désembouteillera ?»« Aidez-moi déjà à vous désembouteiller de moi, » dit Pierre, cherchant à revenir au sujet, pour lui, principal. « Pourriez-vous me prêter un homme d'équipe qui m'accompagnerait en ville pour ma recherche ?» Le chef de gare hésita un instant. « On ne peut rien refuser à un combattant qui porte les rubans que vous portez, » dit-il. « Mon devoir protocolaire est de mettre à votre disposition un homme d'équipe ou, à défaut, n'importe qui. »« Psit ! » siffla-t-il. « Psit ! Allô, Fanton, votre garçon est par là ? Allez me le chercher un peu vite, n'est-ce pas ?» 10 minutes plus tard, toute recommandation finie et Pierre ayant dû expliquer une fois de plus que l'oculariste lui avait fait des yeux qui trompaient le public, il se mettait en route avec un garçon de 13 ou 14 ans, assez débrouillard. Mais auparavant, pour n'avoir plus à répéter la phrase ennuyeuse et gênante, Pierre s'arrêta sous la porte de la gare et enleva de ses orbites, au moyen d'une épingle, ses yeux artificiels qu'il mit soigneusement dans une petite boîte, tandis que son guide surveillait l'opération avec un vif intérêt. « Est-ce qu'on n'y voit pas un peu avec ses yeux ?» demanda-t-il, haletant de curiosité. « Oh, si peu que ça ne vaut pas la peine d'en parler, » répondit Pierre. « Mais je m'aperçois que tu es un malin. Tu vas me trouver une chambre en un instant. » « Ça se pourrait, » fit le gamin. « Pas dans un hôtel, toujours. Là, c'est complet. Peut-être chez Anzouli. Il a une cagna pour permissionnaire. Mais, ma foi, il y a une trotte jusque chez lui. C'est plus dans Bellegarde. Vous ne voulez pas que je vous prenne votre valise ?»« Je la porterai bien. Va toujours. » Car Pierre tout à coup songeait. « Me voilà parfaitement seul, à la merci des malandrins. » La prudence et même la défiance est indiquée. Cette route semble déserte, on n'entend aucun pas. Pourtant, au milieu de la matinée, des gens devraient circuler. Il mit un doigt dans son gousset et fit sonner sa montre Angélus à répétition, une belle pièce que M. Martin lui avait apportée de Suisse à son dernier voyage. 10 petits tintements de cristal, un arrêt, 3 petits coups pressés. Le gamin s'arrêta. « Vous avez une montre qui sonne dans votre poche, » s'exclama-t-il. « Faites voir. » « plus tard, » dit Pierre avec impatience, en donnant une secousse au bras qui le guidait. S'il avait pu voir la mine du garçon se plisser de colère et une sorte d'onde noire à se répandre dans les yeux et sur toute la physionomie, il aurait jugé plus sage de satisfaire ce caprice d'un enfant évidemment emporté et peut-être même anormal. Il était en cet instant occupé à se demander s'il fallait ou non passer au bureau du télégraphe pour avertir la famille Martin de cette halte forcée à Bellegarde. « Je les inquiéterai inutilement, » décida-t-il. « On ne me sait pas en route. Ils sont tranquilles. Et que pourraient-ils faire d'ailleurs ? La frontière est fermée du côté suisse comme du mien. Lucette se consumerait de soucis. » Tandis qu'au contraire, quand nous nous retrouverons, le récit de mon aventure l'amusera. « Qu'est-ce que c'est que ce Zanzouli où tu me mènes ? » demanda-t-il à son jeune guide. « Vous verrez bien quand on y sera, » répondit le gamin boudeur. « Et puis, vous savez, ça fera 20 sous pour Bibi. » « Comment donc, avec plaisir, » dit Pierre. « C'est à cause de ma montre que tu fais cette tête-là ? » « Comment que vous savez que je fais une tête ?» interrogea le garçon, sombre et soupçonneux. « Vous pouvez me blaguer, mais il faudrait pas blaguer Zanzouli. C'est un marchand de tapis, un Turc français. Il a des poings comme des boulets de canon. Il vend aussi de la confiture de rose. » Cette description amusa Pierre. « Tu ne pourrais pas, dit-il, me trouver une chambre chez un Français qui ne soit pas Turc ?»« Il n'y en a pas, » trancha le gamin. « Comment, il n'y a pas un Français qui ne soit pas Turc ? Si vous me blaguez encore, je vous plante et puis débarbouillez-vous, » déclara l'irascible petit bonhomme. « Tenez, voilà Zanzouli sur sa porte. Aboulez mes 20 sous, je me cavale. » Pierre entendit une voix agréable et musicale, agrémentée d'un très léger accent qui gazouillait. « Pour une chambre, oui, ça se trouve bien. Mon permissionnaire est parti ce matin. » C'est absolument et uniquement la seule chambre vacante, à Bellegarde et alentour. Mon petit, on ne te retient pas. « Je veux voir sa montre !» s'écria le gamin. « Il a une montre qui sonne. J'en ai jamais vu. » « Si ce n'est que ça, » fit Pierre en tirant de son gousset la belle montre, dont le décor en relief représentait un blessé se relevant du champ de bataille sous les plis du drapeau de la Croix-Rouge. Et l'émail translucide de cette croix semblait fait de rubis. « Faites sonner !» ordonna le gamin. Pierre dut défendre la montre contre ses mains brusques qui voulaient la manier.